RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Que vous soyez, chers amis, quoi que vous fassiez, bienvenue sur RMC et bon dimanche. Il est 7h10, tout pile. Et c'est avec énormément de plaisir que nous sommes avec vous, en compagnie de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. C'est votre rendez-vous animaux du dimanche, 6h-8h. Et juste après, ce week-end, les experts se poursuivra, puisqu'après les animaux, ça sera l'automobile, avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On évoquera Rétromobile, vous savez, ce grand salon dédié à la voiture ancienne qui se déroulera du 8 au 12 février à Paris, Porte de Versailles. Et on s'intéressera aussi à la saison 2 de Vintage Garage, qui est diffusée sur RMC Découverte. Le présentateur sera avec nous. Et puis on retrouvera l'essai de la semaine, ça sera la nouvelle Tesla, la X90D, et plein d'autres surprises comme vos questions. Tout à l'heure, donc, à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, Laetitia Barlerin, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, on va commencer par cette chasse aux oies sauvages, qui en théorie aurait dû se terminer le 31 janvier dernier, mais qui se poursuit.
Eh oui. Donc on va en parler avec Alain Bougrain-Dubourg, qui est président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui, c'est un peu ça.
Belle chanson.
Alors
Michel,
justement, est-ce qu'il faut les laisser passer, les oies sauvages? Alain, bonjour.
Bonjour.
Merci
Alain.
D'être bonjour. Avec nous dans cette émission. Alors, c'est vrai que vous êtes en colère, on va dire, contre la ministre en charge de l'écologie, c'est le Golden Royal, qui malmène la directive oiseaux. Alors, expliquez-nous d'abord ce qu'est cette directive qui est européenne.
Écoutez, si je peux me permettre, je suis plus qu'en colère, je suis révolté, parce que au-delà de la directive dont je vais vous parler dans un instant, j'ai pu constater que mercredi en 8, Ségolène Royal, en plein cœur de l'hémicycle, le cœur de la République française, état de droit, faut-il le rappeler, eh bien, tout simplement répondu à des parlementaires chasseurs qui demandaient à Ségolène Royal de prolonger la date, alors que ça se ferme au 31 janvier, la prolonger jusqu'au 10 février.
Oui.
Et Ségolène Royal a dit, ben, non, je pourrais pas prendre un arrêté pour prolonger la date, parce que il serait cassé par le Conseil d'État. Mais en revanche, vous pourrez chasser jusqu'au 10 février et je prendrai des mesures pour que vous ne soyez pas verbalisé.
Attendez, c'est une autorisation de braconnage.
Non, mais en plus, est-ce que ça a une valeur légale, ce genre de
non,
phrase?
En théorie, non, mais dès demain matin, à 10h, nous serons devant le Conseil d'État pour faire casser cette décision. J'espère qu'en référé, on va pouvoir faire suspendre cette proposition et puis faire respecter le droit. Je dois dire que quand après on se plaint que les politiques ont mauvaise presse, qu'on ne va pas voter et tout, quand vous avez un ministre qui fait de l'incitation à braconnage publiquement et que ça laisse indifférent l'Assemblée nationale, je trouve ça quand même un peu fort de café. Alors, maintenant, pour en revenir aux oies et globalement au gibier d'eau, effectivement, on ferme au 31 janvier, qui est la date limite. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les scientifiques ont déterminé que la période de reproduction commençait avant, du reste, le 31 janvier. Or, et c'est élémentaire, on n'a pas le droit de chasser pendant que les oiseaux sont en période de reproduction.
Ils sont, voilà,
ouais. C'est oui, c'est quand même la base.
Évidemment.
C'est quand même la base. Donc voilà, on en est là. Je voudrais ajouter en plus que, alors qu'il y a des contraintes très importantes imposées aux éleveurs, aux petits aviculteurs qui n'ont pas le droit de transporter leurs volailles d'un lieu à l'autre, bah, les chasseurs peuvent très bien prendre un canard d'élevage qui sert d'aplomb, c'est-à-dire qui permet d'attirer les autres canards,
oui,
et aller le mettre en plein cœur de la nature. Là, il y a des dérogations pour les chasseurs. Alors, on se demande vraiment où on va, là.
C'est à deux vitesses, quand même. Hein.
On nous dit, voilà, on nous dit, surtout, vous bougez pas, il faut surtout pas approcher les oiseaux et tout. Et de l'autre, on laisse faire ces méthodes. Enfin, voilà, c'est un peu désolant quand on prétend vouloir sauver la biodiversité.
Mais je crois que c'est pas la première fois que
mais
cette
non,
directive oiseau
n'est
pas respectée.
Oui, ça fait près de 10 ans, et à chaque fois, les propositions d'élargissement de la chasse aux gibiers d'eau, de non-respect de la directive, eh bien, on les fait casser par le Conseil d'État. Et on est obligé de recommencer. Je vais vous dire, faire de la protection de la nature en endiguant les mesures qui sont prises par les autres, ça devient éprouvant, quoi. C'est pas excitant. On est sans arrêt en train de se dire, bah tiens, on a moins perdu que on pouvait le craindre. Voilà, c'est ça notre job. Moi, je préférerais qu'il y ait des réserves créées, qu'on puisse aller dans la nature avec le grand public pour s'épanouir, qu'on soit dans le positif. Enfin, voilà.
Et c'est une directive européenne. Comment, l'Europe nous regarde quand même.
Oui, alors l'Europe va se pencher sur la France. Je rappelle quand même qu'on est montré du doigt très sérieusement pour le non-respect le braconnage des ortolans dans les Landes.
Oui, on avait parlé.
Et cette affaire s'ajoute au reste, et à mon avis, on risque d'avoir des sanctions lourdes, des sanctions financières. Et là, c'est tous les Français qui vont payer pour quelques-uns. Je trouve quand même, c'est un peu énorme. Enfin bon.
Est-ce que la vague de froid précoce que l'on a connue a des répercussions sur les populations d'oiseaux ?
Écoutez, on a fait une opération là il y a quelques jours sur l'identification des oiseaux des jardins qui nous permet de nous donner un indicateur. Mais on a des retours très importants à la LPO où on voit qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux au nichoir. Et donc ça peut avoir une explication par un printemps pluvieux l'année dernière,
oui.
Donc moins d'oiseaux aujourd'hui, ou simplement effectivement par la vague de froid qui a pu générer une mortalité importante. Enfin, on est en train de décortiquer les retours, mais effectivement il y a beaucoup moins d'oiseaux, c'est très clair. Et en plus, l'oiseau, je le rappelle, est un indicateur, c'est-à-dire que quand il est en nombre dans la nature, c'est que la nature se porte bien, toute la chaîne du vivant, la biodiversité. Quand en revanche, il y a des réductions, notamment dans les zones agricoles, industrielles, enfin, vous voyez, là, c'est significatif d'une chaîne du vivant qui est très fragilisée. Voilà.
Alors, autre actualité aussi, cette semaine, la municipalité de Marseille a décidé de mener la guerre contre les goélands. En pondant, alors je dis, c'est vraiment de l'humour, hein, en pondant un arrêté pour autoriser la destruction des œufs. Alors, ils seraient trop bruyants, les goélands.
Tiens.
Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense que c'est pas spécifique à Marseille, hein. Il y a d'autres villes en France où il y a eu des problèmes de cohabitation. C'est vrai que ce goéland locofé, est en nombre, hein. On peut pas le nier. Il a même, c'est un oiseau du Midi qui commence à gagner la région parisienne, on l'a même vu en Belgique, etc. Et qui s'est développé notamment à Marseille parce qu'il y avait des décharges à ciel ouvert.
Ils ont à manger en ville.
Ils ont à manger, ils vont pas se plaindre. Hein. Il leur faut un lieu de nidification qu'ils arrivent à trouver sur les toits un peu partout. Bon, et là, ils se développent. Il y a à peu près 18 à 20 000 goélands locofés à Marseille. Et on peut comprendre que ça pose problème. Mais il est prévu de tuer 500 goélands. Et ça, la LPO est complètement opposée. D'abord parce que c'est une espèce protégée, faut le rappeler.
Oui, c'est ça qui est étonnant, oui.
Et ensuite, c'est pas en tuant 500 goélands qu'on va régler le problème quand on sait qu'il y a 18 000 oiseaux. Le problème, il faut le dire, c'est que les Marseillais manquent un peu de civisme quant à la gestion de leurs poubelles. Voilà. Il y a des ordures un peu partout. Les oiseaux, ils sont attirés. Et tant qu'on gère pas le problème des déchets, des ordures, il y aura toujours des oiseaux. Alors nous, on n'est pas opposés du tout à ce qu'on puisse piquer les œufs ou les retirer, ce genre de choses, mais abattre des oiseaux, ça sûrement pas.
C'est plus une opération de communication, comme vous le dites.
Complètement. Comme ça, on espère rassurer les gens. N'empêche que ça changera rien au problème, mais ça fera 500 goélands de moins. Et ça, c'est pas la méthode. Ce qu'il faut, c'est revisiter la manière dont on gère les ordures. Et les goélands vont réduire leur population. Je voudrais préciser que si c'est une population qui s'est bien développée à l'époque, donc, et des décharges à ciel ouvert, aujourd'hui, elle s'est stabilisée et elle commence même à être en déclin. Donc voilà, nous on est opposés à cette démarche.
Très bien.
Merci.
Merci voilà. Beaucoup
merci,
Alain.
Merci Alain. Merci,
merci pour votre émission.
Ben, merci.
Merci bon à vous. Bon dimanche
Allez.
À vous.
Alain Bougrain-Dubourg sur RMC.
Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir.
7h19. Laetitia, on va revenir dans un petit instant et on va évoquer après les oies, les bergers australiens, et qui visiblement serait l'un des chiens préférés des Français.
Et le troisième quand même, alors qu'il y a 10 ans, il n'était pas connu le berger australien. Alors,
ben oui.
On va découvrir cette race qui est très, qui a beaucoup de succès auprès des Français, avec le docteur Valérie Dramard qui vient de sortir justement un livre sur ce chien.
On en parle dans un instant, il est 7h20, le 3216, animaux@rmc.fr, n'hésitez pas à nous joindre les amis, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Le 32-16, si vous voulez nous joindre, Laetitia, on va découvrir maintenant une race méconnue mais qui pourtant devient de plus en plus populaire.
Et oui.
Il s'agit du berger australien.
Et oui, ce berger était inconnu du grand public il y a encore 10 ans. Et là, il est aujourd'hui le troisième chien préféré des Français après le berger belge et le berger allemand si on se fie au nombre de naissances en 2016. Ce nombre de naissances vient d'être publié par la Société Centrale Canine. Et nous avons donc avec nous Valérie Dramard, qui est vétérinaire comportementaliste et auteur de Bien vivre avec mon chien australien qui vient de sortir aux éditions Ulmer. Valérie, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour. Bienvenue. Valérie.
Alors, à quoi est dû ce succès fulgurant du berger australien en France?
Je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, il est très beau. Il est très beau, il a un pelage.
Surtout quand il est petit, on dirait un nounours.
Ah ben déjà, voilà, il y a ce pelage très fourni, et il y a les couleurs aussi, et ses yeux, parce qu'il est souvent, il a souvent des yeux clairs, verrons, bleus,
et puis son
pelage aussi. Donc il y a une variété de robes très importante, et notamment des couleurs qui dans les gris, les bleus, etc. Il est magnifique.
Et c'est vrai que les enfants, quand ils voient un berger australien, ils disent « je veux le même ».
Ouais, c'est vraiment, voilà, il est très attirant pour ça, et puis quand il court, donc c'est cette boule de poils là qui, et surtout qu'il est très actif. C'est-à-dire que c'est un chien, au départ c'est un chien de berger, hein, c'est clair. Donc c'est un chien qui est très vif, très réactif, très actif, donc toujours prêt à jouer. Donc il est très attirant, quoi, c'est certain.
Alors ce qui est étonnant, c'est que le berger australien serait en fin de compte basque.
Oui, en fait c'est les bergers, on a des bergers aussi en France. Et les bergers basques avaient ce chien. Et puis au 19e siècle, ils ont immigré en Australie, où il y avait beaucoup de travail en fait. Hein.
Il y avait beaucoup de moutons.
De grands troupeaux, voilà. Et là, il a été vraiment reconnu. Ils ont été reconnus, on va dire, c'est quand même des binômes, des duos hein, de travail. Et au 19e siècle, ils ont immigré aussi aux États-Unis, notamment en Californie, et c'est là que leur réputation s'est particulièrement faite, ils ont été vraiment reconnus. Mais comme ils venaient d'Australie, hein, le pays d'avant, et ben voilà, c'était les bergers australiens, les Australian Shepherds. Voilà.
Et après, ils sont revenus en France dans les années 80, ce qui est étonnant quand même.
Hein.
Ils ont fait le tour du monde.
Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est le tour du monde. Non, ils sont revenus en France et là, effectivement, pour les bergers, mais aussi en tant que chien de compagnie. C'est là où il est devenu plus un chien, j'allais dire d'agrément, quelle horreur, mais en tout cas, chien de compagnie plus que chien de travail. Quoi.
Alors justement, aujourd'hui, voilà, il est plus prisé comme chien de compagnie que comme chien de berger. Est-ce que c'est un chien de famille? Est-ce que c'est un chien de célibataire?
Alors cette question me fait sourire parce que chien de famille ou chien de célibataire, j'allais dire oui du moment qu'il peut rencontrer très régulièrement d'autres chiens, d'autres personnes, parce que c'est un chien, donc un animal très sociable, très social. Donc en fait il a besoin de rencontrer, il a besoin d'échanger. Donc si c'est un chien de célibataire pour rester enfermé tout le temps et ne rencontrer personne, non, il va être malheureux. Mais j'allais dire presque comme tous les chiens, il faut vraiment avoir ça en tête. Le chien est un animal social qui a besoin de rencontrer.
Comment est-il avec les enfants?
En fait, comment dire, là aussi comme un chien, s'il est bien socialisé à l'humain, c'est-à-dire ça c'est dans les conditions de développement. Si c'est bien contrôlé, c'est-à-dire s'il a été bien materné, et si l'enfant est respectueux, donc là c'est une éducation de la part des parents, hein, parce que les enfants doivent apprendre à respecter l'animal, mm-hmm. Bah, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, au contraire, puisqu'en fait il est joueur, etc. Donc au contraire, c'est un copain de jeu extraordinaire. Mais avec ces conditions, j'allais dire là encore comme tout chien, parce que si le chien n'est pas bien socialisé à l'homme, s'il est plutôt peureux, etc., bah, un enfant peut lui faire peur, parce qu'un enfant, un petit enfant, bah, ça peut être maladroit, etc. Et donc le chien peut d'autant plus en avoir peur. Et là aussi, l'enfant, il doit respecter, c'est-à-dire ne pas sauter dans le panier là où le chien est couché au risque de lui faire mal, parce qu'évidemment, le chien peut réagir. Oui. Mais ça, c'est, j'allais dire, la base avec tous les animaux de compagnie, et notamment le chien, en particulier le chien.
Très bien, Valérie, on va revenir dans un instant. On va écouter tout de suite Florence qui a une petite réflexion à nous donner concernant les bergers australiens. Et puis on revient après la météo et les infos. Bonjour Florence.
Bonjour
Florence.
Bonjour François, bonjour Laetitia, bonjour Valérie.
Alors vous êtes l'heureuse maîtresse de berger australien.
Voilà, j'ai un berger australien qui va avoir 10 ans cette année.
Oui.
Et comme je pratique beaucoup de sport avec lui, du jogging en...
Ah, génial. C'est bien. Du canicross.
Non, mais non, il est en totale liberté en fait.
Ah, en plus.
Oui, je fais beaucoup de sport. Donc, vu ses articulations qui commencent à faiblir,
oui, disons.
Le vétérinaire m'a conseillé de reprendre un chien pour ménager le premier.
D'accord.
Donc, j'ai repris un autre berger australien.
Ah bah oui, quand on aime.
Voilà, quand on aime la race, on ne compte plus. Pas. Donc, j'ai accueilli hier.
Il est non.
Hier. Oh, c'est trop mignon. Oh.
Et puis d'ailleurs, Cooper va vous dire bonjour. Cooper, dis bonjour. Tu dis bonjour. Cooper.
Il est timide.
Il est timide.
Florence, non mais attendez, il faut absolument qu'on entende Cooper.
Ah, si, ça y est.
Ah, voilà.
Voilà, Cooper.
Voilà, c'est le berger d'Australien de 10 ans.
Ah, bon. Très bien.
Bonjour.
Bah, écoutez.
Voilà. Donc, ma question, c'est que, en fait, le premier est castré.
Oui.
Et je voulais savoir si je devais castrer le deuxième.
Ah ah. Alors.
Alors, on va répondre après la la météo et les infos.
Ça, c'est du teasing. Ah, faut-il castrer?
Et puis, c'est bien, ça sera Valérie qui va répondre.
Le deuxième chien.
Je vais écouter Valérie.
Oui, parce que d'habitude, c'est vous qui répondez sur ce genre de sujet.
Je peux répondre, mais là,
et je sais que Laetitia Barlerin a la castration facile. je peux vous le dire que de temps en temps, moi, j'emmène pas large. Alors, on va retrouver la météo et les infos sur RMC. Et on revient, à tout de suite.
À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Attention là, tia, une petite question flash. C'est la question de Didier qu'on a reçue sur la page Facebook de Vos animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur...
J'aime.
Bravo. Attention, la question de Didier. Mon chat de 6 ans mange ses poils, Laetitia. Je le brosse pourtant régulièrement. Que faire de plus?
Bah lui donner à manger des croquettes, je sais pas.
Ah c'est ça. Ou des croquettes au poil.
Non, c'est vrai que c'est un problème parce que le chat qui se lèche et mange justement ses poils, après il a des boules de poils dans l'estomac qu'il régurgite, ou alors ça le constipe. Donc il peut avoir une constipation chronique avec des maux de ventre, donc c'est vrai que c'est pas agréable. Alors il faut le brosser, mais en période de mue, il faut le brosser tous les jours, pour enlever le maximum de poils, bien sûr. Vous pouvez aider aussi votre chat à bien digérer ses poils, ses boules de poils, avec ce qu'on appelle une pâte laxative, qui est la base d'huile de paraffine, qu'il faut donner. Alors, vous demandez à votre vétérinaire, ça a un goût de poisson, ils aiment bien ça. Et vous donnez ça 3 à 5 jours de suite, pour l'aider justement à bien digérer ses poils. Vous pouvez donner aussi de l'herbe à chat, vous savez, le carré de gazon là qui lui permettra aussi de bien digérer ses poils. Et il y a des justement pour éviter les boules de poils parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres, hein, c'est marqué sur le sachet. Et puis dernière chose aussi, il faut le traiter contre les puces parce qu'un chat qui se lèche beaucoup est souvent un chat qui a des puces. Donc il se lèche beaucoup, il prend beaucoup de poils, il les avale, donc c'est pour ça qu'il faut bien traiter contre les puces les chats qui ont comme ça des boules de poils à répétition.
Le problème c'est qu'il peut manger des puces aussi et puis parfois ça peut le rendre malade aussi, non?
Oui, parce que les puces transpercent des vers intestinaux et du coup il faut aussi le vermifuge.
Exactement. Bon, vous savez tout. Le 32-16, animaux@rmc.fr. Laetitia Barlerin m'accompagne chaque dimanche sur RMC de 6h à 8h. N'hésitez pas à nous appeler.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, il est pratiquement 8h moins 25. Merci d'être avec nous. Un bonjour à vous qui venez peut-être de vous réveiller et de vous brancher sur RMC. Merci d'être là. Un excellent dimanche. Vous savez que chaque samedi et dimanche sur RMC, 6h, 10h, ce sont les meilleurs experts de France qui m'accompagnent avec le jardin à la maison le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau entre 8 et 10. Et là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Un petit coucou aussi à tous ceux qui sont en vacances puisque c'est le début des vacances d'hiver pour notamment la zone parisienne. Donc voilà, profitez bien du ski si vous y allez. Et puis prudence si vous êtes sur la route, bien évidemment, avec cette météo qui est quand même assez moyenne, hein, Laetitia.
C'est vrai.
Alors, Laetitia, on évoque ce matin le berger australien, qui est l'un des chiens préférés des Français.
Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie Dramard, docteur vétérinaire comportementaliste et auteur de Bien vivre avec mon berger australien, qui vient de sortir aux éditions Ulmer. Et nous sommes aussi avec Florence, qui a deux bergers australiens, un de 10 ans et un tout jeuneau de 2 ou 3 mois.
Qui vient d'arriver à la maison. Voilà, pour courir avec Florence. Mais Florence se pose la question de savoir si, tout comme son premier chouin, elle doit castrer le deuxième. Valérie.
Allez, c'est moi qui
m'y colle. D'accord.
Moi, j'aime bien inviter des confrères parce que comme ça, ben voilà, je ne dis plus rien.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Jean-Luc Moreau, notre expert auto qui vient d'arriver, s'en va quand on parle de castration. Je ne comprends pas pourquoi.
Bon ben alors justement moi je propose pas une castration systématique.
Ah Valérie, c'est très bien, merci.
Ouais, voilà. Moi non plus hein, parce que il exagère toujours François, il pense voilà, quand je dis castration, je sais pas, il y a un truc qui résonne en lui, du coup il pense que je veux castrer tout le monde.
Non mais Laetitia, à chaque fois moi j'ai une espèce de frisson qui me parcourt le corps quand vous dites ça, je sais pas pourquoi. Donc Valérie.
En fait, oui, parce que j'allais dire en fait ça dépend. C'est vrai qu'aux États-Unis on castre beaucoup, par exemple systématiquement très très tôt les animaux.
Oui, très jeune même. Oui.
Voilà, très jeune. En France quand même on est plus, j'allais dire prudent et puis peut-être raisonnable. Disons que ça dépend. La castration du premier, c'était peut-être pour des raisons particulières. Là, j'allais dire, en termes de cohabitation, c'est pas certain qu'un chien mâle castré et un chien mâle non castré ne s'entendent pas.
Exactement,
déjà.
C'est vrai.
Donc, il faut voir comment ça évolue. Effectivement, on se rend compte que le petit jeune, le petit dernier, des velléités, est un peu, on va dire, combatif, est un petit peu virulent, il voudrait un petit peu. Bon, bah là, peut-être que ça va calmer le jeu, puis ça va équilibrer sur le plan hormonal, mais il faut voir comment ça évolue, voilà.
Et puis, le berger australien, c'est quand même un chien qui est assez sociable, qui est.
Voilà, et puis, bon, après, je dis toujours, certes, il y a la race, mais aussi des individus, hein. Il y a des bergers australiens qui sont vraiment, qui cherchent pas du tout à dominer, puis d'autres qui sont un petit peu plus sur deux, etc. Donc, ça dépend. Et puis, il y a aussi une autre chose. Alors, c'est vrai que si on fait du footing avec un chien qui est entier et qui risque de partir parce que ça dépend dans quel endroit on va faire du footing.
Ah, s'il sent une femelle en chaleur.
Aïe.
Voilà. Ça peut être effectivement un inconvénient. Et puis aussi, il y a une chose, et je pense que Laetitia, tu as dû déjà en parler. Il y a la castration chirurgicale, effectivement,
définitive.
Mais il y a aussi des implants.
Oui.
Et donc, ça permet, parfois on se dit, tiens, peut-être que la castration serait utile. Ben, on peut utiliser ce genre d'implant qui dure 6 mois ou 1 an. Et puis, effectivement, constater si oui ou non c'est utile. C'est utile, et ben, ça justifie de passer à la castration chirurgicale ou de continuer les implants. Ou alors, on se dit, décidément, ça n'apporte rien et on renouvelle pas. Et je trouve ça plus souple. Il n'y a pas de règle absolue. Je pense qu'il faut voir avec l'évolution, la relation entre les deux chiens et comment évolue le petit dernier. Voilà.
Voilà, Florence, vous êtes satisfaite?
Oui, je suis satisfaite. J'avais une question aussi, si je peux me permettre.
Allez-y.
Alors, mon premier chien n'est pas du tout prêteur. Donc, tous les jouets, le petit ne peut pas les toucher. Sinon, il remet à sa place. Donc, pour l'instant, je laisse faire, mais je voulais savoir si je pouvais intervenir quand même un petit peu pour que l'autre chiot puisse quand même accéder à certains de ses jouets.
Alors, moi, ce que je propose toujours, parce que j'allais dire que c'est à la fois le bon sens et on est en droit de le faire. À la maison, quand même, on est un peu des... On est dans notre maison, j'allais dire, on est un peu des superviseurs des relations. Et donc, en fait, si on estime que les relations sont pas adaptées parce que trop de chahut, parce que, voilà, trop de disputes, c'est comme un peu avec le rôle d'un parent avec des enfants qui chahutent, à un moment donné, on dit « ça suffit ». On supervise, on est en droit de superviser la relation. Quand on estime que ça devient trop violent, trop exagéré, etc. Donc je pense qu'il faut se faire confiance. C'est vrai que si on est inquiet tout le temps, bah là on intervient trop et puis il n'y a plus de vie. Mais voilà, là vous avez laissé faire, mais si vous estimez que le chiot il a besoin de jouer, puis votre chien le plus âgé il exagère peut-être, vous êtes en droit de superviser, dire ça suffit maintenant quoi, un peu de... D'accord. Soyons raisonnables.
Voilà. Soyons raisonnables.
Valérie, nous avons Tamara qui est avec nous au 32-16. Bonjour Tamara.
Bonjour François Sorel, bonjour Valérie et bonjour Laetitia.
Bonjour Tamara.
Alors,
Avez aussi un berger australien, enfin votre sœur.
C'est votre sœur.
C'est ma sœur qui a un berger australien et en fait j'ai deux questions sur ce berger australien.
Alors vite.
J'ai jamais vu un chien aussi têtu que cette chienne-là. Alors, elle court beaucoup, comme Valérie l'a déjà dit, mais l'autre jour, il faisait très très froid, c'était le week-end du 20 janvier, et elle voulait plus rentrer, on a mis 2-3 heures pour arriver à la faire rentrer. Et du coup, je voulais savoir comment ça se faisait et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour arriver à la faire rentrer plus rapidement, puisque c'est une chienne qui est têtue, mais très sensible, donc c'est difficile. Et la deuxième question, c'est que... quand moi je viens les voir, elle devient une vraie glu. J'ai jamais vu ça non plus. C'est incroyable. Elle se met assise sur mes pieds devant mes jambes et limite impossible de la détacher de là. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Tout dépend, mais ça paraît quand même incroyable.
Oui, alors. Oui, donc j'ai l'impression en fait que je la connais pas effectivement, il manque plein d'éléments, mais que ça a l'air d'être une chienne sensible et impulsive en fait, hein, c'est-à-dire quand elle a une idée en tête, elle est un peu dans les extrêmes quoi, si j'ai bien compris. Alors sans la connaître, c'est difficile. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que dans cette race, quand même, il y a beaucoup, ils sont plus réactifs, plus sensibles que la moyenne.
Bien sûr.
Ce qui en fait leur succès au travail, d'ailleurs.
Hein. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont des chiens de berger, parce qu'ils doivent être très sensibles
voilà.
à tout ce que fait le maître au troupeau, et donc être vraiment sur le qui-vive tout le temps.
Voilà, donc déjà, ils ont une propension à être comme ça. Après, c'est évident, comme ils sont très sensibles, c'est qu'au niveau éducation, c'est vrai qu'il faut plutôt privilégier les méthodes, comme on dit, positives.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dire non, hein, mais disons que c'est vrai que la motivation, comme ils sont intelligents, ils ont des capacités cognitives vraiment importantes. Tout ce qui est motivation voilà, récompense, motivation est important.
D'accord.
Plutôt que la réprimande. Et après, maintenant, cette chienne, cette chienne, après, il faut voir si effectivement elle semble assez ou anxieuse ou extrême au point de... Faut peut-être consulter, voir
d'accord.
si effectivement on est dans le normal avec cette chienne ou alors effectivement il y a peut-être un trouble. Hein, voilà.
Merci Valérie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Prie.
Merci. Merci pour ces consultations.
Bien vivre avec mon berger australien. Voilà le livre de Valérie, vétérinaire comportementaliste. On revient dans un instant, Laetitia. 7h42. On va découvrir un ourson blanc qui vient de naître aux zoos de Mulhouse. Et puis juste après, événement, puisque Jean-Pierre Dick, qui est arrivé quatrième au dernier Vendée Globe, sera avec nous au téléphone. Et en plus, Jean-Pierre est vétérinaire, donc il nous racontera un petit peu comment s'est passée cette compétition. Ici, la croisée de beaux animaux. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 8h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Et après la météo des infos de 8h, on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, dans un instant, nous accueillerons Jean-Pierre Dick, un vétérinaire qui est arrivé quatrième au dernier Vendée Globe. Mais auparavant, direction Mulhouse.
Mulhouse, et oui, le parc zoologique de Mulhouse en Alsace, où vient de naître un ourson polaire.
Oh, c'est trop mignon.
Avec le docteur Brice Lefaux, qui est directeur de ce parc. Brice, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Alors, ce petit ourson, là, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, est né le 7 novembre dernier. Alors d'abord, pourquoi la naissance n'a été annoncée que cette semaine et pourquoi cette naissance est un événement?
Alors pourquoi a été annoncé que après 3 mois? Bah, c'est parce qu'en fait il y a très très peu de chances de survie en fait sur les oursons jusqu'à l'âge de 3 mois.
Ah oui.
Il y a de nombreuses mortalités dans le jeune âge. Ça se retrouve dans la nature comme en parc zoologique et il n'y a que 4 naissances répertoriées l'année dernière, donc en 2016, sur les 125 ours polaires présents au parc zoologique en Europe. Il n'y a eu que 4 naissances. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est très très rare.
Alors, normalement, les oursons naissent pendant la période d'hibernation. Est-ce que vos ours hibernent?
Non, les ours polaires n'hibernent pas, ils chassent. En fait, la femelle va, c'est vraiment le cycle habituel, c'est-à-dire que la femelle va commencer à s'enterrer et créer une tanière où elle a à peine la place de bouger.
Oui.
Pour mettre bas. Et puis, nous, donc, on a aménagé l'enclos en 2014. Spécifiquement pour ça, avec 2 enclos séparés et une loge de maternité. Cette loge de maternité est toute petite, ça lui permet de se lever dedans. Elle va rester à l'intérieur sans manger et sans boire pendant jusqu'à 4 mois dans la nature. Nous, elle est restée donc 2 mois et demi sans manger, sans boire, à s'occuper de son petit. Et on pouvait vérifier tout se passait bien par une petite caméra qui était placée dans la tanière.
Alors pour l'instant, elle est dans cette loge, elle ne bouge plus de cette loge, c'est ça?
Oui, ça évolue très vite. C'est vraiment la maman qui nous dit comment on doit évoluer. On a vu qu'elle avait envie de sortir. Donc l'unité de maternité, c'est la loge donc de maternité dans le bâtiment. Et puis une petite courette qui lui permet, si elle a envie de sortir. Donc on a ouvert la trappe parce qu'elle avait envie de sortir. Et donc là, pour l'instant, elle varie de la tanière dans la loge, puis dans la petite courette extérieure. Et elle bouge comme ça avec son petit.
Elle prend son petit. Alors du coup, personne n'a approché le petit. Hein. Il y a eu juste les caméras qui ont vu qu'il y avait un petit dans la loge.
Oui, alors ça, c'était vrai il y a la semaine dernière.
Ah bon, ça a évolué.
Déjà, ça a évolué puisqu'on a nourri donc la maman.
Oui.
Et l'ourson est déjà venu à la grille. Donc on n'a pas, et on ne le fera qu'une seule fois pour justement vérifier son état de santé, le sexer et l'identifier en même temps. Mais on ne fera qu'une fois, je pense que dans la semaine, on va pouvoir le faire. Donc l'identifier, le sexer, et ensuite on arrêtera on pourra plus le toucher parce qu'il sera inapprochable.
Oui.
Et donc on va pas le câliner si c'est derrière l'idée, même non. Si on a très envie.
Bah, c'est-à-dire qu'on a tous en mémoire Knut, vous savez, le petit ourson du zoo de Berlin, qui a été une star mondiale, qui a été élevé par l'homme, car rejeté par sa mère à la naissance. Est-ce qu'il y a un risque de rejet de la mère?
Alors, plus maintenant, et on est vraiment... Knut était une mascotte, on est vraiment plus dans le... On n'est pas dans cette dimension-là. On est vraiment, nous, on souhaite vraiment que l'ourson soit un ambassadeur.
C'est-à-dire...
La preuve, un ambassadeur, ça veut dire qu'il doit pouvoir être le moment de se questionner sur comment on consomme, comment on pollue, pour pouvoir ensuite protéger la nature, et notamment l'Arctique. Ce qu'on veut, c'est bien sauver les ours polaires dans le milieu naturel en Arctique. Et l'ourson est un formidable vecteur qui va nous permettre d'en parler de tout ça. Bien sûr, ça attire...
Ça sera l'ambassadeur de l'Arctique. De l'Arctique et des ours polaires qui sont, eux, dans la nature.
Voilà. Par exemple, pour choisir son prénom, et on ouvre ça. Si quelqu'un veut choisir son prénom, il y a un choix de 4 prénoms à avoir. Vous pouvez le faire, mais il faut vous engager pour cela à suivre des petits gestes. Hein, il n'y a pas de culpabilisation, mais des petits gestes qui sont de moins prendre la voiture, de moins polluer, de trier ses déchets, des choses très très simples que si on fait tous ensemble, on arrivera à protéger les océans et l'Arctique.
Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut proposer un nom, c'est ça, pour l'ourson?
Alors, il y en a 4 choix.
Ah, il y en a 4 choix, donc on peut faire son choix.
Son choix, voilà.
D'accord.
Parfait.
Et on le verra quand, l'ourson, d'après vous?
Encore une fois, c'est la maman qui décide. Ça va beaucoup plus vite que prévu. On pensait, parce que dans la bibliographie, c'est vraiment 4 mois. Donc, on pensait début mars. Mais je pense qu'on pourra le voir dans son enclos beaucoup plus rapidement.
Bah, très bien.
Ah, très bien.
On va surveiller
ça.
Et puis, dès qu'on a des photos, on les mettra sur la page Facebook.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci pour ce faux.
Merci.
À très bientôt. Merci. Vous êtes directeur du parc zoologique de Mulhouse, en Alsace, bien entendu.
Laetitia, après les oursons blancs, nous allons maintenant partir en pleine mer avec Jean-Pierre Dick, navigateur vétérinaire qui est avec nous et qui est arrivé 4e au dernier Vendée Globe.
Voilà,
bonjour Jean-Pierre.
Sur le bateau Saint-Michel-Virbac. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, tu viens de faire le tour du monde en 80 jours. Alors, c'est presque un roman de Jules Verne, hein, mais c'est 80 jours, 1 heure, 45 minutes et 45 secondes, exactement, hein, en solitaire et sans escale. Ça fait 10 jours que tu es sur Terre. Comment ça va?
Ça va, mais j'ai un peu de soucis à retrouver
le sommeil.
Mon cycle de sommeil classique, oui. Parce que ben, nous on est un peu comme les hommes d'antan, on se réveille tous les quarts d'heure ou toutes les heures, on n'a jamais de sommeil qui dure vraiment plus d'une heure. Et donc au bout de 80 jours on s'y est habitué et donc le retour à Terre. Un mois, voire deux mois quelquefois pour se remettre un peu dans le cycle normal.
Ouais, c'est le mal de terre en fait.
Voilà, pratiquement. C'est ça. C'est que des bons problèmes, je dirais. Redormir dans un drap, avec des draps secs, s'asseoir à une table avec des couverts, ce sont des petites joies qu'on redécouvre finalement quand on revient à terre et c'est agréable.
Alors, rappelons quand même que tu, avant d'être navigateur professionnel, tu étais vétérinaire et de fait sensible à la faune sauvage. Alors, j'imagine que pendant ces 80 jours, seul sur un monocoque, on voit quand même des animaux autour.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Les animaux qu'on voit le plus, de façon assez presque surprenante, sont les oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux en mer.
Ah bon?
Dans les grandes mers, dans les mers du sud, on voit les albatros, il y a des pétrels, il y a des presque plus que des poissons ou des dauphins. Ces oiseaux, ils tournent souvent autour du bateau de façon assez permanente. Et,
ils se posent sur le bateau?
Ils s'approchent sur le bateau. Il y en a certains. Alors, je sais pas si c'est de la curiosité ou ils tournent autour du bateau. Nous accompagne, donc il y a des beaux moments, notamment lorsque les plus beaux moments de navigation, même pour moi, c'était lorsque un albatros me suit pendant une après-midi, sort avec moi, m'accompagne. Quelquefois j'ai même peur de les heurter.
C'est poussez-vous, voilà. C'est un peu comme nous avec les pigeons et la voiture, quoi. C'est ça?
Oui. Ouais, il y a un côté un peu plus sauvage.
C'est sûr. Et concernant les mammifères marins, alors je sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui suivent les bateaux. De dauphins, pardon, qui suivent les bateaux.
Oui, le dauphin, traditionnellement, est considéré un peu comme l'ami de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a des ondes. Alors, je pense qu'on n'a pas forcément analysé ça, mais quelquefois, les dauphins viennent aider l'homme. Je sais que lorsqu'on est un peu en difficulté avec son bateau, on dit que peut-être qu'il vient nous aider, mais c'est vrai qu'il nous accompagne souvent. Et là, j'ai eu une belle rencontre d'une race de dauphins que je connaissais mal, qui est le dauphin de Commerçon, qui est un dauphin qui est acclimaté à des mers très froides.
Oui.
Et je les ai rencontrés dans les mers du Sud. C'était une belle rencontre. J'ai envoyé un petit film.
Oui, on a vu on mettra le petit film sur Facebook parce qu'on voit, c'est un dauphin noir et blanc. Qui est magnifique.
Ouais, c'est un dauphin. J'étais surpris par sa beauté et puis par son. On n'a pas l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des dauphins communs. Il y en a beaucoup sur les côtes françaises, notamment en Bretagne, en Méditerranée aussi. Et là, ce petit dauphin, parce qu'il est de taille un peu plus petite, il est vraiment original. Voilà, avec des taches blanches sur le corps, avec. Et il est venu me saluer dans les mers du Sud. J'y suis même allé assez souvent maintenant, 6 fois, un mois. Donc, et c'est la première fois que j'en voyais. Donc c'était une belle rencontre, effectivement. Ouais.
Et des baleines, hein.
Alors baleine, j'ai vu une baleine en Atlantique. Effectivement, elle devait être un peu endormie à vitesse très réduite. C'est la seule rencontre que j'ai eue sur les 3 mois de mer, mais c'est toujours des rencontres très émouvantes parce que c'est un énorme mammifère.
Ah bah oui.
Et il y a un côté majestueux, évidemment, dans sa nage. On a à la fois peur pour son bateau parce que le Saint-Michel d'Irbach, s'il heurte une baleine comme ça, déjà elle va lui faire mal et puis. Et puis, il peut y avoir des dégâts sur le bateau, ça peut être une cause d'abandon, évidemment. Donc, c'est à la fois peur et puis la fascination de ces bêtes sauvages. Voilà, qu'est-ce qu'elles pensent, comment est-ce qu'elles voient le bateau, tout ça, on peut se poser plein. plein de questions, mais il y a vraiment la fascination de ces voilà de cette nageoire caudale qui sort de l'eau un peu, qui est toujours voilà, c'est toujours des moments très très particuliers où on est
puis en plus
on est transporté par cette beauté voilà, par cette beauté sauvage, parce on est dans la nature, on est dans un désert liquide et on voit un animal sauvage voilà, qui est assez inhabituel finalement, et c'est toujours des moments uniques.
C'est un de tes plus beaux souvenirs sur les animaux en mer?
Oui, bah, de voir une baleine comme ça, c'est toujours, on s'en souvient, ça fait partie des moments, on a plein de moments qui sont difficiles en mer, les tempêtes, comment on va gérer des problématiques compliquées, et ce qui nous fait revenir, nous marins, moi ce qui me plaît là-dedans, pourquoi je vais là-bas à plus de 50 ans, c'est ça, ce sont ces moments-là qui sont
des moments uniques. Hein.
Ouais, pas simplement avec la faune, mais aussi évidemment avec les nuages.
Cette communion avec la nature qui doit être formidable. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci Jean-Pierre. Bravo encore pour ta quatrième place quand même à la course du Vendée Globe. Faut savoir qu'il y en a qui sont
aussi, ouais.
Voilà, et d'autres ne sont pas encore arrivés. Ben hein, oui. Voilà, ça fait 10 jours que tu es sur Terre. Merci et bravo quand même.
Merci Jean-Pierre.
Merci.
Laetitia, on va terminer ce rendez-vous dédié aux animaux avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche. Et c'est un chat qui est la star de cette vidéo.
Oui.
Laetitia, c'est un chat, c'est un petit rouquin qui est magnifique. Voilà.
Qui aime les brosses à dents.
Qui aime les brosses à dents.
Électriques.
Mais pas dans les dents. C'est ça le truc.
C'est-à-dire que voilà.
Il s'en sert comme d'outil de massage.
Voilà. Vous présentez votre brosse à dents électrique, bien sûr. Et il se fait un petit massage de la tête.
Tout à fait.
Hein? Oui. Voilà, c'est juste une seconde utilisation de la brosse à dents électrique.
Bon, après, il faut pas se laver les dents. Il faut changer la brosse. Hein. À retrouver
sa brosse.
À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, bien sûr, et vous cliquez sur j'aime. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
Oui, bien sûr. Bon dimanche à tous. Bon petit déjeuner. Voilà, bon café. Et à dimanche prochain.
Et dans un instant, après la météo et les infos, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr. We'll be right back.